Une vie, une œuvre. Clémence Louise Michel, dite Louise Michel, 29 mai 1830, 9 janvier 1905. Louise Michel, baptisée la Vierge Rouge, a connu le bagne en Nouvelle-Calédonie de 1873 à 1880. Là, comme plusieurs années auparavant, en Haute-Marne, puis à Paris, c'est le plaisir d'instruire et transmettre qui l'amène vers l'enseignement au Kanak. Louise Michel, profondément anti-religieuse, a des liens avec la franc-maçonnerie et affirme son engagement dans la commune. Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'était bien la commune, écrit-elle. Le pouvoir les annihila, ne leur laissant plus d'implacable volonté que pour le sacrifice. C'est que le pouvoir est maudit, et c'est pour cela que je suis anarchiste. Elle n'hésitera pas à se présenter en cour d'assises pour demander l'acquittement d'un homme qui avait tenté de l'assassiner. Aude Émilie Judaïque, signe avec Doria Zénine, Une vie, une œuvre, Louise Michel.
Sœur de charité laïque, la presque Jeanne d'Arc, disait Verlaine. Oh, j'en ai eu des surnoms. La pétroleuse, l'anarchiste, la révolutionnaire, la louve noire, criaient les assassins.
Vive la République, nous la voulons, nous la voulons. Vive la République, nous la voulons, nous l'aurons.
Louise Michel, louve et agneau.
Rougissons d'avoir autrefois osé crier, vive les rois, osé crier, vive les rois. Moutons, nous aignons tous la majesté des loups. Vive la République, nous la voulons.
Vous voyez, c'est écrit institutrice ouvrière de la Commune de Paris. Et en 1972, des plaques avaient été fabriquées et l'artisan parisien avait trouvé bizarre qu'on écrive ouvrière de la Commune de Paris. Donc il avait écrit, lui, ouvrière de la ville de Paris. Donc nous avons corrigé. Ça a été la première action de l'association.
Ah voilà, Vroncourt-la-Côte. Nous y voilà, face à ce superbe panorama. C'est vallonné, c'est vert, on a la chance d'avoir un petit rayon de soleil qui illumine tout. Claudine Bourcelot, vous êtes présidente de l'association Louise Michel, que vous avez fondée il y a maintenant 25 ans.
Oui.
Vous êtes une enfant de ce pays, de la Haute-Marne. Et on est ici donc à Vroncourt, dans le village natal de Louise Michel.
Regardez où il y a le drapeau, c'est la mairie et l'école. Bon, c'était une demeure assez austère, glaciale, traversée par les vents. Les villageois l'appelaient le tombeau parce qu'il n'y avait aucune ouverture sur le côté sud.
Le château de Vroncourt, par rapport à ici, où se trouve-t-il ?
Alors le château est tout au bas du village. Voilà, au niveau de
au bas de la côte.
Voilà, au bas de la côte, oui.
Qu'est-ce qu'il en reste exactement aujourd'hui ? Rien du tout ?
Ben, le château, il était déjà en très mauvais état. Au temps de Louise Michel, elle parlait d'une vaste ruine où le vent soufflait comme dans un navire. Bon, cette route-là où nous sommes n'existait pas. Il y avait un chemin qui s'appelait la Routotte, qui descendait le long de cette ferme, et puis ensuite une allée d'arbres conduisait à la propriété. Marianne Michel, bon, était analphabète, était la mère de Louise Michel, était servante au château. Bon, ses maîtres, Laurent, le fils ou le père, ont abusé d'elle. Marianne s'est retrouvée enceinte, et Louise Michel est née le 29 mai 1830. Alors, c'est sûr que son statut de bâtarde a été déterminant pour son avenir. Son secret de naissance a été très très lourd à porter.
Beaucoup, beaucoup d'éléments tendent à prouver que le géniteur de Louise Michel était certainement plutôt le grand-père, celui qu'elle appelle grand-père, sans doute était son père.
Xavier Gautier.
Et moi, je crois que c'est très, très important parce que c'est comme si le sol glissait sous ses pieds. Déjà, être une bâtarde, surtout à l'époque. Bon, ne pas être reconnue, avoir le nom de sa mère, c'était très difficile à vivre, à l'époque encore plus. Mais en plus, ne pas pouvoir désigner son géniteur, et il y a même une hypothèse que je vais faire qui est la pire, qui est la plus horrible, peut-être que Marianne Michel ne savait pas qui c'était le géniteur. C'est-à-dire peut-être que les deux hommes, alors je dis pas l'avaient violé parce que on n'a pas de trace de ça, mais qu'est-ce qu'un maître fait avec la servante? Est-ce qu'elle est vraiment consentante? Voilà, bon, il n'est pas impossible non plus qu'elle ait connu, comme on dit dans la Bible, les deux hommes à ce moment-là. Alors, est-ce qu'elle a jamais dit à sa fille qui c'était vraiment son père? On ne sait pas.
C'est un traumatisme qu'elle a porté toute sa vie.
Oui, moi je pense que c'est ce qui a déterminé beaucoup de choses en elle, c'est-à-dire que le sol se dérobe sous vos pieds, vous pouvez devenir vraiment paranoïaque, vraiment sombrer dans la psychose, c'est-à-dire il n'y a plus de réalité possible. Alors moi je pense un peu c'est la clé de son engagement, de son œuvre et de sa célébrité, un peu tout, c'est que au lieu de sombrer dans cette psychose qui est une souffrance individuelle, elle a eu suffisamment d'intelligence ou de chance pour transformer cette douleur de la réalité en un refus de la réalité sociale avec d'autres, avec les anarchistes, avec les socialistes, c'est-à-dire elle en a fait une lutte collective. Et au lieu de se désespérer pour son cas personnel, elle s'est engagée pour défendre les ouvriers contre les patrons qui les pressurent, les femmes contre les hommes qui les écrasent, les animaux, la nature contre les hommes qui la détruisent, les noirs contre les blancs en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc un engagement pour tout ce qui souffre. Elle dit d'ailleurs dans ses mémoires « J'ai pitié de tout ce qui souffre » et non pas se refermer sur sa propre souffrance. Moi, je crois que c'est la clé de ce qui a déterminé chez elle quelque chose de faire. Il fallait faire quelque chose, elle l'a fait en grand.
Je n'ai jamais franchi nos paisibles villages et cependant mon front est avide d'orage. Seigneur, Seigneur mon Dieu, livre mon aile au vent. Ou bien rends-moi semblable aux paisibles enfants que nulle voix n'appelle au soir dans les nuages.
Va t'endormir dans le cimetière.
Va t'endormir dans le
va
cimetière.
T'endormir dans
va
le
t'endormir
cimetière.
Dans le cimetière.
Petit hôte qui n'a pas de père.
Petit hôte qui n'a pas de père.
Petit hôte qui n'a pas de père.
Bon, on peut dire, on peut affirmer qu'elle a eu une enfance privilégiée. Elle baignait dans un milieu intellectuel, les grands-parents voltairiens. C'était une enfant pleine de vie.
Elle avait du tempérament déjà petite, hein?
Ah oui, elle préférait les jeux de garçons aux jeux de poupées. Oui, elle était espiègle, elle aimait faire des farces. Sa vie était très très libre, c'est une enfant sauvage. Bon, la mère et la grand-mère disaient que c'était un cheval échappé. Elle était
déjà très différente des petites filles de sa génération.
Oui, bien sûr, elle n'a pas été modelée dans le modèle banal et ordinaire des filles de l'époque. Oui, elle se démarquait par sa culture. Elle était forcément marginale, déjà. Elle était très vite révoltée. Puis elle n'hésitait pas à piller les réserves familiales du château pour aller les distribuer aux pauvres. Oui, c'est que plus tard, sans doute, qu'elle comprendra qu'il faut autre chose que la charité pour que chacun ait du pain. Alors, c'est la petite église de Boncourt, dont le portail est classé. J'ai demandé au curé si on pouvait retrouver des actes de baptême, savoir si Louise Michel a bien été baptisée à l'église sur ses fonds baptismaux.
Et on n'a pas retrouvé?
Pour le moment, non. Et mon mari me dit comme elle était marraine. Et qu'autrefois, on ne pouvait pas devenir marraine si on n'était pas baptisée.
Mais elle était quand même partagée parce que du côté paternel, effectivement, on était très cultivés, comme vous le disiez, mais aussi du côté... Sa maman était analphabète, avait une foi religieuse extrêmement forte. J'avais le sentiment qu'elle était comme ça, partagée entre mondes, entre deux milieux sociaux.
Bien sûr, entre l'éducation donnée par les grands-parents voltairiens et entre le mysticisme religieux de sa mère et de sa tante. La tante qui était religieuse, qui habitait aussi au château. Et cette tante qui l'emmenait tous les soirs aux vêpres, à l'église. entre donc ce mysticisme religieux de la mère, entre l'éducation libérale donnée par les grands-parents. Oui, Louise Michel subissait des influences contradictoires et
elle était tiraillée.
Ah oui, tout à fait. Et elle parle beaucoup de ses doutes dans les mémoires où elle se compare à une aiguille qui cherche le nord affolée dans les cyclones.
Le nord, c'était la révolution. Quand donc ? Comme on roule un suaire aux morts pour les mettre au tombeau, sur nous tous, verra-t-on notre air se replier comme un manteau ? Pareil au grain qui devient gerbe sur le sol arrosé de sang, l'avenir grandira, superbe, sous le rouge soleil levant.
Elle a écrit très tôt. Elle écrivait des poèmes toutes très très jeunes. Elle a publié ses premiers poèmes dans l'Écho de la Haute-Marne, c'est-à-dire le petit journal local, en signant d'ailleurs... De Maïs, parce Louise que le nom de son père qu'il n'avait pas reconnu. Certains, d'ailleurs, c'est Louis de Maïs et d'autres. Donc, elle a fait passer ce manque, en fait, dans l'écriture. Et moi, je crois, là aussi, on voit en même temps et du même coup son début en tant qu'écrivaine.
Mais son rêve était de devenir poète,
crois. Ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'elle s'adresse à Hugo, pensant que c'est un frère pour elle, carrément, alors que Hugo était déjà reconnu. Oui, c'était vraiment une star en France et même internationale. Et elle pense qu'elle est complètement proche de lui, qu'elle écrit des vers comme lui.
Et lui, quel retour lui donne-t-il sur ses poèmes ?
Alors, c'est difficile à savoir, mais elle a reçu des réponses. Ça, on le sait, parce qu'elle dit « Merci, votre lettre est venue vers moi comme un rayon, comme c'est Dieu qui vient, un rayon de Dieu, un rayon de soleil et de Dieu en même temps qui viennent frapper son malheureux cœur de provincial au fond de son château glacial. » Enfin, c'est comme ça qu'elle s'exprime. Et donc, on sait, par conséquent, que Hugo lui a répondu, mais on n'a retrouvé aucune des lettres d'Hugo. C'était un pigeon voyageur, c'était une nomade, Louise Michel. Elle n'a cessé, volontairement ou non, de changer de lieu. Je dis ou non, puisqu'elle a été déportée, elle a été en prison, elle a été exilée, voilà. Elle a changé de domicile très souvent, voilà. Donc, je pense involontairement, en tout cas, beaucoup de lettres ont été perdues.
Pour Louise Michel, quitter ce château à la mort de ses grands-parents, oui, ça va être la rupture. C'est le moment où sa vie finalement va basculer, où elle va devoir entrer dans l'âge adulte, trouver du travail, oui, alors qu'elle espérait, elle rêvait de vivre de sa plume. Oui. Elle va devoir aussi retourner à sa condition. Elle n'est plus une de Mailly, elle devient une Michel.
C'est ça. En 1850, donc, les grands-parents sont décédés. En 1845, c'était le grand-père, ensuite la grand-mère. Donc les héritiers vendent le château. Bon, c'est vraiment une déchirure pour elle. Et on interdit à Louise Michel de s'appeler de Maïs, parce qu'autrefois, on l'appelait Mademoiselle de Maïs. Et elle devient Louise Michel, elle prend le nom de sa mère.
Claudine Bourcelot.
Et elle quitte Vroncourt pour préparer ses examens d'institutrice à Chaumont, rue Juvet, au pensionnat Bête et Royer.
J'appartiens au destin des déclassés. La raison du plus fort est toujours la meilleure, vous me l'avez montré tout à l'heure, mais je ne serai pas raisonnable. Je ne resterai pas à la place que vous m'avez bâtie, comme on creuse une fosse devant le vivant sous prétexte qu'il sait qu'un jour la mort viendra. Je ne serai plus raisonnable. Cela demeure la seule chose raisonnable.
Bon, sa mère l'aurait bien vue cuisinière.
Une cuisinière gagne 10 fois plus qu'une institutrice. Mais à quoi bon nourrir des ventres quand la tête est vide ?
Mais bon, Louise Michel avait en elle le goût d'apprendre, avait envie d'enseigner, avait envie de quitter Vroncourt. Bon, elle n'avait plus de raison de vivre à Vroncourt dans la mesure où elle était devenue une étrangère. Voilà, nous sommes devant la maison familiale dans laquelle Louise Michel enseignait en 1853.
Nous sommes maintenant à Audeloncourt, dans un village à proximité de Vroncourt.
Voilà.
C'est une petite quinzaine de minutes en voiture.
À Audeloncourt, en 1853, Louise Michel ouvre une école libre. Alors, pour exercer dans les écoles communales, il fallait que les instituteurs prêtent serment à l'Empire. Et Louise Michel refusait, bien sûr, de faire réciter la prière à l'empereur. Donc, elle fonde une école libre. Une école libre dans la salle à manger d'une maison familiale. Donc, dans cette salle à manger, elle enseigne une pédagogie nouvelle, une pédagogie novatrice qui est basée sur l'expérience et le raisonnement. Louise Michel, elle refuse les châtiments. Alors, avec un siècle d'avance, on peut dire qu'elle a inventé les classes nature. Alors, par exemple, elle fait étudier la géologie en allant ramasser des pierres avec ses élèves. Elle leur fait comprendre la vie des plantes en cultivant avec eux un jardin. Dans sa classe, c'était plein de vie. On lisait, on comptait, on jouait des pièces de théâtre. Bon, Louise Michel a toujours été passionnée par son métier d'enseignante. Oui, elle savait inventer des nouvelles méthodes d'enseignement. Mais surtout, surtout, elle souhaite une école laïque, gratuite et obligatoire.
Ce que nous voulions, c'était vider les classes et les têtes de nos enfants des crucifix qui poignardent notre libre pensée et éveiller les consciences de gré ou de force.
Visiblement, d'après ce qu'elle raconte et aussi ceux qui ont un peu suivi sa carrière, elle avait quand même ici un groupe d'une classe classique, on va dire, de 20 à 30 enfants, ce qui est déjà beaucoup à l'époque.
Alors au-delà de l'insoumission de Louise Michel au Second Empire, quelles pouvaient être ses autres motivations à créer des écoles parallèles, dirait-on aujourd'hui peut-être ?
Les Républicains ont eu une difficulté, là on est un peu obligé de se remettre dans le contexte. Ils gagnent en 1848.
Sylvain Vagnon, historien.
Ils veulent le suffrage universel. Et en décembre 1848, vous avez une élection présidentielle et qui gagne ? Celui qui va être Napoléon III. Pour les Républicains, c'est quand même un échec. C'est-à-dire que vous avez créé une République et finalement, elle est captée. Il y a un coup d'État avec un régime, l'Empire, qui va se créer. Et donc, pourquoi ? Parce que la population n'était peut-être pas formée, n'était pas prête, n'avait pas conscience. Et donc, il y a ici une logique des Républicains qui sera celle d'ailleurs des Républicains de la Troisième République, c'est de dire que par l'éducation, je vais préparer d'abord à être un citoyen de mon pays et de savoir notamment le premier devoir, c'est-à-dire de voter. Donc il y a cette logique. Après, évidemment, chez elle, très vite, on le sent, il y a cette volonté aussi de développer l'enseignement féminin, qui est très en retard. Donc son objectif est aussi de créer aussi un enseignement à égalité, même de coéducation, comme on dit à l'époque, entre garçons et filles. Et puis ensuite, elle a quand même ce point aussi donc politique, je l'ai dit, c'est créé par la République une éducation, mais elle va plus loin, c'est-à-dire qu'elle pense aussi à une éducation pour transformer la société. C'est là où, je pense, là, il y a une vraie cohérence avec sa pensée politique libertaire et anarchiste, c'est de penser aussi Louise Michel avec l'idée d'une enseignante qui sent, qui comprend que par l'éducation, on peut transformer la société en place.
Cuisiner, balayer, laver, coudre, écouter, consoler, soigner, torcher les jeunes, frotter les vieux, nourrir, coucher les enfants et coucher avec le mari s'il en a encore envie, s'il se souvient après tout cela que nous étions belles avant. Pour nous autres, la vie se prend comme on empoigne les armes. Semblablement, on prend la parole. L'éloquence est une arme. À preuve, ces siècles de mutisme, geôle de silence, dans laquelle nous nous sommes cloîtrés par soumission, dans laquelle on nous claquemurait, enfermait, séquestrait, barricadait. La voilà, ma première barricade. Je n'aurai pas d'enfants, mais j'aurai fondé des révolutions.
Et puis, peut-être, juste pour finir, on sait qu'elle a écrit aussi des ouvrages pour les enfants. Et ça veut dire qu'on pense des outils, des supports de soutien à sa pédagogie. Et elle écrira donc deux ouvrages, notamment « Conte et légende » qui viennent d'être réédités cette année. C'est assez intéressant, c'est que oui, c'est une rupture par rapport aux contes et légendes qu'on pouvait connaître, c'est-à-dire le héros, la personne exemplaire, irréprochable. Elle, qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose une histoire des humbles, elle propose une histoire de gens fragiles, elle propose aussi de quelqu'un qui visiblement est exclu de son village et qui finalement va sauver le village. Donc, c'est-à-dire que c'est une approche politique très différente. Et ça, le mouvement libertaire, d'ailleurs, va multiplier les exemples d'ouvrages de littérature de jeunesse qui doivent contrecarrer, finalement, ce qu'est la compétition, l'héroïsme, le côté des héros, souvent des guerriers, des hommes, etc. Donc, c'est-à-dire qu'elle propose des choses qui sont en rupture avec ce qui existe à l'époque, qui est quand même une école-caserne. Enfin bon, c'est quand même aussi cet élément.
Très rigide, très disciplinaire.
Très rigide, tout à fait, avec l'enseignant qui sait tout et qui transmet. Donc là, véritablement, oui, il y a des prémices de l'éducation nouvelle.
Après Audelancourt, elle a enseigné à Audelancourt peut-être 2 années, 3 années. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a ouvert une autre école à Millières avec Julie Longchamp. Et qu'en 1856, elle a quitté la Haute-Marne à 26 ans. Et elle part pour Paris pour s'engager dans la lutte sociale.
Mes enfants, je vous ai appris une belle chanson qui s'appelle La Marseillaise. Si vous le voulez bien, ce matin, à la place de la prière à l'empereur, nous allons la chanter.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Est-ce qu'on sait de quand date son engagement politique? Comment se sont forgées ses convictions politiques?
Alors ça, c'est une période sur laquelle on n'a pas tellement d'informations, mais il semble que petit à petit, elle est réfléchie, c'est comme ça qu'elle le raconte en tout cas, qu'elle est réfléchie, qu'il ne pouvait pas y avoir de vie après la mort, que se compromettre était impossible, que la religion catholique ne pouvait pas être vraie. Bon. Et pour son engagement politique, elle a toujours été émue par les souffrances des autres, ça c'est sûr, mais ça aurait pu très bien aller avec un engagement religieux, hein, par la charité. D'ailleurs, c'était une femme charitable.
Mais c'est Jaurès, je crois, est-ce que je me trompe? C'est Jaurès, je crois, qui l'a qualifiée de sœur de charité laïque.
Voilà, tout à fait, oui. Mais comment s'est-elle radicalisée? Bon, alors c'est sans doute quand elle est montée à Paris. Hein. Elle est arrivée à Paris dans un Montmartre qui était des faubourgs de Paris, à peine rattachée à Paris depuis peu, qui était dans une misère extraordinaire, un peu différente de celle de la campagne. Et il y avait là des hommes politiques, dont certains sont devenus des dirigeants de la commune, qui disaient pourquoi et comment on pouvait combattre cette misère. Donc elle a été convaincue par la parole des personnes qui étaient des hommes, qui étaient engagés avant elle dans, c'était encore peu déterminé, socialisme, anarchisme, etc., mais qui se révoltaient contre l'injustice sociale.
Les colères entassées, fermentant dans le silence depuis 20 ans, grondaient de toutes parts. On attendait la liberté comme les millénaires attendaient le retour du Messie. Combien de fois on devait croire le jour arrivé de jeter au chiffon les loques de l'Empire? Mais toujours il durait. Rien de solide comme les ruines. Rien qui dure plus que les haillons. Et se sachant mourir, l'impitoyable empire enflait de cruauté. Ne voulant périr seul, il décimait le peuple. Alors nous inventions un autre peuple, radical. Il faut dire que nous n'avions plus rien à perdre, nous n'avions plus rien, nous n'étions rien. Les rats des quartiers chics goûtaient aux meilleurs égouts plus souvent que nous. Et c'est dans ces quartiers, il faut encore le dire, que nous chassions les rongeurs après avoir mangé nos chiens.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tombe dans son cratère, c'est l'éruption de la faim.
Cet empire de Napoléon III, qu'on peut présenter brièvement, il est la période en France qui est le début vraiment de la révolution industrielle. Et c'est une révolution industrielle qui va développer une classe ouvrière, des travailleurs, qui vivent dans des conditions dramatiques, parce qu'on est encore sous l'empreinte d'un libéralisme complet. Il n'y a aucun droit du travail. On est vraiment dans des conditions de vie et de misère dramatiques.
Jean-Louis Robert.
Et en même temps que naît cette classe ouvrière, donc dans ces conditions, naît aussi un mouvement social. On voit apparaître dans les années 1860 des grèves importantes. On voit apparaître un mouvement qui est déjà, on peut dire, socialiste, sinon communiste, et notamment dans le monde. C'est la naissance de la Première Internationale en 1864, qui a une section française qui est très développée. Donc, cette période commence par une guerre, celle que Napoléon III engage contre la Prusse et qui va se terminer par des défaites sanglantes. Et cette guerre est une catastrophe. les Prussiens arrivent à côté de Paris et vont encercler Paris. Et pendant plusieurs mois, Paris va être assiégé par les Prussiens. C'est hermétiquement fermé, c'est-à-dire très dramatique. Il y a des milliers de gens qui meurent de faim. Hein. On parle des éléphants du zoo qui sont mangés, mais en même temps, c'était vraiment une situation dramatique. Et les Parisiens se sont battus pendant plusieurs mois pour la défense de Paris. Et ils ont parfois le sentiment que le gouvernement de la défense nationale, du général Trochu, ne défend pas avec assez de vigueur le pays. Ça se termine par une situation de défaite. Le gouvernement va demander un armistice aux Prussiens à la fin du mois de janvier. Et cet armistice inclut l'élection d'une assemblée nationale qui devra voter le traité de paix et éventuellement décider du régime futur de la France. Or, cette Assemblée nationale, qui est élue le 8 février 1871, donc après ces mois de siège des Parisiens, donne une majorité largement monarchiste, alors que Paris vote massivement républicain. Et donc il y a aussi une inquiétude à Paris qui va naître, de ce que cette assemblée qui va décider en plus de siéger à Versailles, c'est toute une symbolique, c'est une provocation pour les Parisiens. Il faut enfin rappeler un dernier point qui compte, c'est que Paris est la seule ville de France qui n'a pas un maire élu. Donc Paris est une ville particulièrement contrôlée, qui fait peur et qui veut être libre. Donc on va y avoir une conjonction de tous ces facteurs qui vont amener à créer les conditions de l'insurrection, conditions qui vont être créées par la politique de Thiers, plus précisément au début de mars. Donc au début de mars 1871, là on voit Thiers, donc qui a été nommé par l'Assemblée de Versailles chef du gouvernement, Thiers va prendre conservateur, qui représente le parti de l'ordre, de quelqu'un dont on ne peut avoir aucune confiance, parce qu'on ne sait pas si Thiers est un monarchiste, ou si peut-être il va faire une république en laquelle il croit à peine. Donc voilà, il est très mal perçu des Parisiens Thiers.
Alors comment commence finalement la Commune de Paris? Qu'est-ce qui la déclenche?
Alors ce qui déclenche justement la Commune, ça va être une question qui est liée à la Garde nationale et au siège d'ailleurs. La Garde nationale, ce sont les Parisiens armés.
La garde nationale dispose de plus de 300 canons, dont ils se sont emparés lors de l'arrivée des Prussiens à Paris. Ces canons sont entreposés à Belleville, Montmartre et dans d'autres lieux de la capitale. Ces canons sont le symbole du pouvoir militaire indépendant de la garde nationale dissidente. Les négociations pour récupérer ces canons ayant échoué, le gouvernement de M. Thiers a décidé de récupérer ces canons.
Reposez !
Le 18 mars au matin 1871, donc, Thiers envoie son armée récupérer les canons sur la butte Montmartre. Donc le comité de vigilance de Montmartre va mobiliser la population, va avertir d'autres gardes nationaux. Tout le monde monte en quelque sorte, au moins de Montmartre et même de plus loin, sur la butte. On entoure les soldats, on leur donne à boire du lait, mais peut-être aussi un peu de vin. Et à un certain moment, le commandant de cette troupe dit que ça suffit maintenant, et il demande à ses soldats de faire feu. Et là, c'est toujours ce moment du basculement imprévu et mystérieux de l'histoire qui déclenche les révolutions. Il répète plusieurs fois feu, les soldats refusent de tirer et fraternisent. Et la révolution est déclenchée. Donc dans la journée, Paris va se couvrir de barricades, suivant une tradition qui remonte à plusieurs dizaines d'années dans le 19e siècle. C'était transmis oralement dans les familles comment on construit une barricade. Il y a aussi des manifestations de fureur populaire. On sait que deux généraux ont été exécutés parce que il y a eu cet ordre de tirer sur le peuple. Donc, dans tout Paris, on voit l'insurrection s'étendre et Paris est en révolution le soir du 18 mars.
600 barricades dans les rues de Paris, hautes comme des montagnes de douleur et d'injustice. Oui,
J'aime les gueules rouges des canons fumants, les relents d'acier chaud, les effluves de sang. La poudre est à la liberté ce que le cierge est à l'église. Lueur d'espoir, scintillement de foi, éclair de conscience. La France libre, c'est la France communale fédéralisée. Il faut maintenant fédérer toutes les communes de France. Lyon, Marseille, Narbonne, avec nous les provinces et l'Europe neuve.
Cette nuit, le gros tiers se heurte à la conviction populaire. Vive les Parisiens! Vive la Nouvelle République!
Quant aux femmes, elles vont jouer un rôle considérable. Alors, elles revendiquent de défendre Paris. Elles vont d'ailleurs constituer une organisation qui s'appelle l'Union des femmes pour la défense de Paris. Cette Union des femmes va être une des principales organisations de la Commune. À côté des sections de l'Internationale et des syndicats, l'Union des femmes est vraiment un des moteurs de la Commune. Donc les principales militantes sont Nathalie Lemuel, une ouvrière, c'est une organisation très populaire. Hein. Ce sont des ouvrières, des blanchisseuses, des relieuses, des couturières, des domestiques qui sont présentes dans cette organisation. Et cette Union des femmes va pousser la Commune à agir dans plusieurs domaines. Celui sur la participation des femmes à la défense de Paris, donc comme infirmières, comme cantinières, elles vont aller au front de plus en plus, et on voit qu'elles revendiquent de plus en plus, non seulement de faire ces tâches, mais aussi de combattre. Elles vont revendiquer le combat. Parmi les femmes effectivement les plus engagées dans cette direction, bien sûr, il y a Louise Michel, parce que Louise Michel, pendant la Commune, elle est beaucoup plus dans le combat que dans l'action politique.
Oui, barbare, je suis, oui, j'aime le canon, la mitraille dans l'air, ami, ami, dansons.
La danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis, chantons, amis, dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis, chantons. La nuit,
rive gauche, défigurée par les bombardements, tous les jours sans mort, le double de blessés. Je me souviens. Je me souviens des corps arrachés, éventrés, du sol gluant du sang des Parisiens. Thiers, chef du pouvoir exécutif, chef des exécuteurs, oui, assassin des libertés, barbare sanguinaire. Que jamais un boulevard, une rue, une impasse même ne porte ton nom. Je jure, et le peuple de tous les temps à travers moi, je jure que jamais plus tu ne seras honoré, et que s'il en était autrement, mon fantôme reviendrait pour décrocher ses honteuses plaques aux rues.
Alors la Commune de Paris dure finalement 72 jours. Elle s'achève le 28 mai 1871, après une semaine d'exactions sommaires, enfin ce qu'on a appelé la semaine sanglante. À la chute de la Commune, finalement, que deviennent les hommes et les femmes de ce mouvement, et surtout, que deviennent leurs idées?
Alors donc, effectivement, cette semaine sanglante est terrible, des exécutions abominables. Souvent, on a retenu que les incendies qui vraiment ont effectivement été causés en partie par les communards, mais aussi souvent l'oubli par les bombes versaillaises. Et souvent, effectivement, on a gardé ce souvenir seulement de cette semaine sanglante avec ces milliers et ces milliers d'exécutions sommaires dans des conditions absolument dramatiques. Après, bien sûr, ce sont des vaincus. Et l'histoire est souvent faite par les vainqueurs. On le sait, on l'a constaté. Ce sont les vainqueurs qui font l'histoire. Les vaincus, ils sont en prison, ils sont en déportation, ils sont en exil. Donc, ils n'ont pas le droit à la parole. Et donc, pendant, en tout cas, au moins une dizaine d'années, l'image de la Commune, c'est la racaille. C'est la racaille. Les artistes communards, c'est que ce sont des ratés. Les femmes communardes, ce sont des prostituées. Voilà, c'est ça qu'on retient de la Commune. Tout est anéanti, sauf cependant, je dirais, les mesures de la Commune sociale, par exemple, ou démocratique, sont anéanties. Mais cette insurrection a posé beaucoup plus fortement la République. Et on peut dire qu'au moins, en grande partie, nous devons la République, C'est pas la République qu'attendaient les communards. Mais enfin, nous devons la République en grande partie à la Commune. Après la Commune, il n'est plus possible d'envisager autre chose que la République.
Je ne veux pas me défendre ni être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Ce que je réclame de vous, c'est le champ de Satori où sont déjà tombés mes frères. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part moi aussi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi.
Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, et lasses de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais « J'ai tué, car tu voulais mourir ». Tu glorifiais ceux qu'on écrase et ceux qu'on foule. Tu criais « J'ai tué, qu'on me tue !» Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser.
C'est à son procès qu'elle est devenue vraiment célèbre. C'est pas pendant la Commune. C'est après, justement, par la façon dont elle se défend, en s'accusant, elle se défend en s'accusant parce qu'elle voulait être guillotinée, glorieusement, avec les martyrs, avec les autres martyrs, hein, avec les hommes qui ont été guillotinés, dont son cher Théophile Ferré.
Xavier Gautier.
Donc voilà, c'est elle-même qui continue à forger cette image de femme indestructible. Terrible. Voilà. Là, je voudrais peut-être dire un mot quand même sur Théophile Ferré, parce que donc elle a connu Théophile Ferré, qui moi je crois était son cousin. Oui, oui. J'ai fini par découvrir ça. Et je ne sais pas à quel degré. Mais et Théophile Ferré était une sorte de ministre de l'Intérieur, chef de la Sûreté, qui était très intransigeant. C'est lui qui a signé le décret de « il fallait tuer les otages, exécuter les otages ». Et c'est Théophile Ferré qui est le grand martyr et qui, lui, a pu être fusillé. Et comme elle a aimé Victor Hugo comme on aime Dieu, elle a aimé Théophile Ferré comme on aime la Révolution. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas dans un amour ordinaire et que s'y mélange le fantasme, l'imaginaire et l'idéal et l'absolu.
Alors vous dites qu'elle a contribué à son propre mythe.
Ben oui, parce que donc déjà dans ses premiers écrits, cette façon qu'elle a de se voir, hein, c'est, et la façon dont elle a romancé sa vie dans ses mémoires, elle apparaît quand même comme quelqu'un d'exception. Et en plus, elle dit que si elle est devenue quelqu'un d'exceptionnel, c'est depuis le début, depuis la graine qui devient un arbre, elle devait, étant donné son enfance, elle devait devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une militante anarchiste, un chef de file anarchiste. C'est-à-dire, dès le début, elle se présente comme quelqu'un qui a un destin exceptionnel, qui devait devenir Louise Michel, si je puis dire. Et donc, elle a contribué elle-même à ce mythe, à cette légende, la Louise Michel, au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée, regardant loin dans
la Marianne qu'on voit s'élever au-dessus des barricades.
Tout à fait.
Elle a contribué elle-même à cette image.
Oui. Elle a été représentée comme une Marianne au-dessus des barricades, alors que Marianne est seins nus, c'est pas le genre de Louise Michel, hein, bon. Mais on l'a bien vue comme ça, c'est-à-dire comme la sauveuse, hein, la sauveuse de la France, la sauveuse de l'humanité, une Jeanne d'Arc. Verlaine disait presque Jeanne d'Arc, et c'est pas pour rien qu'on l'a appelée la Vierge Rouge et Jeanne d'Arc la Pucelle. Il semblerait qu'il y aurait une sorte de, comment dire, une valeur ajoutée, si je puis me permettre, à la femme lorsqu'elle n'est pas entamée par l'homme, si je puis dire, hein. Quelque chose que moi je peux m'élever et je peux parler aux hommes et je peux prendre le fusil parce que je suis vierge, je suis une femme-homme d'une certaine façon. Son idéal étant, en somme, qu'il n'y ait plus ni homme ni femme.
Prolétaire, ton maître, l'État. Femme, ton maître, l'homme. Aux uns les droits, aux autres les devoirs.
Mais alors c'est ce qui surprend quand on étudie Louise Michel, c'est le contraste entre une femme généreuse, pleine d'empathie, ultra sensible aux injustices, Et puis, par ailleurs, cette Vierge Rouge, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a appelée, qui était prête à tuer pour ses idées, aussi louables soient-elles. Comment expliquez-vous, Xavier Gautier, qu'elle ait toute sa vie oscillé entre ces deux extrêmes ?
Il y a une caricature d'elle qui est très connue, où on la voit avec une cornette sur la tête, comme les bonnes sœurs de l'époque, et d'un côté, elle a un fusil, et de l'autre côté, elle tient un blessé qu'elle a ramassé. Et d'ailleurs, pendant la Commune, c'est ce qu'elle a fait. Elle a tiré au fusil, elle a ramassé les blessés, c'est-à-dire dans un même mouvement.
Même les blessés versaillais,
tout à fait. Donc, dans un même mouvement, elle avait cette envie de soigner, de guérir et de venir en aide, et puis tuer s'il le faut. Mais son idée, c'était que quand on aura tué ce qui gêne, les monstres, comme elle les appelle, l'humanité tout entière va respirer. Donc, c'est l'acte violent, l'acte meurtrier qui va délivrer l'ensemble de l'humanité et qui est absolument nécessaire.
La terre sera lavée par le sang, dit-elle.
Exactement, au tueur de monstres pour que vive l'humanité. Elle dédie son histoire de ma vie de la dernière partie au tueur de monstres, c'est-à-dire ceux qui faisaient les attentats, au tueur de monstres pour que vive l'humanité. Donc elle a l'espoir et à travers des fleuves de sang, voici venir la délivrance. Je me souviens de cette phrase, comme un accouchement. C'est violent, mais quand ça va être passé, quel avenir radieux. Et je crois que ce qui l'a fasciné, c'était l'idée de la mort, mais de la sienne. Elle a rêvé toute sa vie de mourir, et de mourir en martyr. Et la pauvre, elle est morte dans son lit d'une bronche, d'une pneumonie. elle était fascinée par la mort. Et ça, elle le raconte dans ses mémoires, elle en parle aussi à Victor Hugo. Alors, moi je crois qu'on va revenir à sa bâtardise, hélas. Elle parle d'une vieille paysanne qui l'a bercée dans ses bras. Alors, est-ce qu'elle se souvient vraiment quand elle était un petit bébé, tout en lui disant « Va dormir au cimetière, petiote. Le mieux que tu as à faire, c'est de mourir, vu la situation dans laquelle tu es. » Hein, fille bâtarde, voilà. Et elle dit qu'elle passait plein de temps au cimetière, et elle dit qu'elle jouait avec son cousin à faire la guillotine, monter sur l'échafaud, la guillotine, etc. Donc, et là, une envie de sa propre, un désir suicidaire, mais mise en scène, scénarisée. Il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait une certaine beauté de la mise à mort. Et elle parle à plusieurs reprises de noces de sang. Noce de sang qu'elle aurait voulu avoir avec Théophile Ferré, c'est-à-dire que on va pour s'épouser et pof, un coup de feu, la robe blanche se tache de sang, une rose rouge qui s'agrandit au niveau du cœur, et cette femme meurt. Cette femme, c'est elle, bien sûr.
Faut pas parler comme ça, petite. Ça fait pleurer le bon Dieu. Faut pas parler comme ça, petite.
Xavier Gautier, croyez-vous que le fait que sa mère s'appelle Marianne soit une coïncidence ?
Mais elle ne s'appelait pas Marianne, bien sûr. Elle s'appelait Marie-Anne. C'était l'époque, il n'y avait pas de Marianne, bon, à l'époque où Marie-Anne est née. C'est devenu, bien sûr, sous la plume de Louise Michel, Marianne, et même partout après, ça a été écrit Marianne. Donc c'est devenu le symbole de la République, mais c'est Louise Michel qui en a fait un symbole de la République.
Et elle réécrit beaucoup sa vie. Elle fait de l'autofiction.
Oui, tout à fait. Dès le début, quand elle écrit ses mémoires, elle réécrit conformément à ce qu'elle voudrait avoir vécu. Moi, je crois, bon, l'expression très courante en français, prendre ses désirs pour des réalités, c'est tout bête, mais c'est ça. C'est ce qu'elle fait. Elle prend ses désirs pour des réalités. Au fond, ce n'est pas très étonnant qu'elle soit devenue anarchiste, parce que dans l'anarchie, il y a le refus vraiment, totalement de la société telle qu'elle est, et il va y en avoir une autre.
Un idéal.
Ses mémoires, elle les a écrites, elle le dit elle-même, c'était pour faire œuvre de propagande. C'est pas innocent. Elle le dit, c'est une œuvre de propagande. Je vais montrer pourquoi tout le monde devrait devenir anarchiste. Au point que, quelquefois, ce qu'elle écrit est complètement faux. Je crois qu'elle ne mentait pas. Elle était mythomane, mais elle ne mentait pas. Depuis ce qu'elle raconte sur sa jeunesse et après, une autre écrivaine qui n'a rien à voir, bien sûr, Marguerite Duras, dit, elle qui a beaucoup fantasmé aussi sur sa jeunesse, dit quand on écrit quelque chose, ça devient vrai. Et pour Louise Michel, je crois que c'est comme cela.
Rêve noyé dans le sang révolutionnaire des communards. Drapeau si rouge du sang versé. puis le sang coagulé des martyrs se teinte de brun, et c'est ainsi qu'on passe du rouge au noir. Et que le drapeau noir est arrivé.
Oui, elle le dit qu'elle était devenue anarchiste sur le bateau qui l'a emmenée en Nouvelle-Calédonie, en discutant avec son amie Nathalie Lemel, qui était aussi une bonne communarde, et en tirant les leçons de la Commune. Parce que c'est dit, si la Commune, qui était un gouvernement merveilleux, a échoué, c'est parce que le pouvoir en lui-même est maudit. Hein. Pas d'État, pas d'Église, alors ça, elle a beaucoup combattu les religions, pas d'armée, bien sûr. Elle considère que voter ne sert à rien et que ce n'est pas la peine que les femmes se battent pour le vote. Son programme politique, c'était le cyclone. Tout va sauter. Donc, le vote là-dedans... Elle était anticolonialiste, tout à fait. Même altermondialiste, on peut dire. Il y avait la notion que les frontières ne devaient plus exister et que ce serait la liberté des peuples à travers le monde.
Je crois qu'il faut bien prendre conscience du fait que Louise Michel est une romantique, foncièrement.
Claude Retta.
C'est-à-dire une apôtre du « tout se tient ». Pour elle, la révolution, et elle le dit, ne peut être que universelle. C'est-à-dire engager tous les pays. Et même, elle va au-delà d'une manière un peu folle. Elle imagine le cosmos en révolution, les sphères se faisant des appels et se serrant la main par-delà l'espace. Et donc, elle a une formule extrêmement frappante. Elle dit « On ne peut pas accorder un instrument sans que toutes les cordes résonnent. » Donc ça, c'est sa conception de la révolution. S'il y a révolution, il y a révolution universelle. Une révolution partielle, ça n'a pas de sens. Même raisonnement pour la grève, etc. Mais également, même raisonnement pour la poésie et la littérature. Et du coup, un raisonnement qui inclut à la fois la révolution et la poésie, qui sont après tout des cordes du même instrument. D'où toujours la connexion étroite dans ses œuvres entre le politique, le social, le poétique, tous les arts. Bien entendu, Louise Michel veut agir. Elle cherche à mouvoir une fibre révolutionnaire. Elle cherche à parler aux fibres nerveuses de son auditoire et de son lectorat. Donc il y a toujours propagande et il y a toujours, en même temps, œuvre d'écrivaine à part entière.
Quand la foule aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, et qu'à mourir elle sera prête, la Commune se relèvera. Nous reviendrons foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons nous serrant les mains, les uns pâles dans les suaires, les autres encore sanglants, les trous des balles dans leurs flancs, la mort portera la bannière, le drapeau noir crêpe de sang et pourpre fleurira la terre, libre sous le ciel flamboyant.
Elle écrit deux ouvrages qu'il faut mettre en relation dans la décade 1890. La Commune, elle commence à y travailler à partir de 1894. Mais 3 ans avant, elle publie, en feuilleton dans l'Égalité, La chasse au loup, ce roman qui était resté totalement inédit en librairie depuis 1891 et dont je viens d'établir l'édition critique. Et cette chasse au loup invente en roman, construit en roman, le retour de la Commune. Donc la Commune future, la semaine sanglante qui réapparaît, mais pour un triomphe présent de la Commune. Pour les 20 ans de la Commune de Paris qui a été vaincue en 1871.
Mais Claude Retta, ce qui est impressionnant dans l'œuvre de Louise Michel, c'est sa façon de mélanger passé et présent. Parce qu'effectivement, elle essaye de convaincre les nouvelles générations de s'engager dans la lutte et dans la révolution sociale. Mais en même temps, elle ne cesse de faire appel à ce qu'elle appelle les spectres, tous ces morts de la Commune de 1871, qui vont revenir sur Terre et qui vont de nouveau, eux aussi, s'engager et se venger.
Tout à fait, la part du spectre est impressionnante dans l'œuvre de Louise Michel. Il y a un effet cimetière, en quelque sorte, qui n'arrête pas de dégorger dans le présent, comme vous le remarquez. Et on pourrait dire que pour Louise Michel, les morts constituent la part, sinon la plus importante, du moins une part très importante de la Révolution.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pure. Un loup survient à Jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait.
Il y a chez elle une sorte d'obsession pour les loups. Elle en parle très jeune dans ses premiers poèmes d'enfance. Elle dit d'ailleurs dans ses mémoires qu'elle entend les loups au loin quand elle habite encore au château des Démaïs à Vroncourt-la-Côte. Et on sent que c'est une thématique qui va la poursuivre toute sa vie.
Tout à fait. C'est un souvenir d'enfance de Haute-Marne quand elle était dans son château de Vroncourt et qui est lié pour elle aux veillées au coin du feu quand le grand-père racontait des légendes et qu'on entendait les loups hurlant dans la campagne sauvage. Il y a un détail très amusant dans les mémoires où elle raconte cela, c'est que le grand-père qui raconte ces légendes pendant que les loups hurlent porte des chaussons, des pantoufles en peau de mouton. Ça m'a toujours beaucoup frappé parce que ce duo du mouton et du loup ne cesse de hanter l'univers de Louise Michel. Il y a plusieurs éléments qui se rejoignent là. D'une part, tout un fond de légende. Bon, on connaît bien, je ne sais pas, la louve romaine, les légendes autour du loup. Il y a également l'univers wagnérien qui est très présent dans l'imaginaire de Louise Michel. Et puis, il y a cette métaphore de la lutte sociale, les loups et les moutons. Les loups étant les prédateurs sociaux et les moutons étant le malheureux troupeau humain qui se fait tondre, égorger, etc. Donc il y a à la fois une fascination pour le loup qui est à double tranchant parce qu'elle est à la fois elle est un rêve d'exterminer les loups prédateurs mais en même temps une véritable passion pour ces figures sauvages et énergiques. Et puis inversement, il y a un rapport assez ambigu également à la figure du mouton, qui bien entendu représente l'opprimé, mais qui est finalement assez répulsive dans l'imaginaire de Louise Michel, parce que le mouton, c'est justement celui, enfin ça pose un problème, c'est l'être qui veut bien se laisser manger, et là il y a un problème de servilité volontaire qui offusque beaucoup, qui gêne beaucoup Louise Michel. Donc non seulement elle rêve sur les loups, mais elle rêve également... À terme, l'humanité évoluant, elle rêve à une métamorphose du mouton qui deviendrait... Enfin, le loup s'améliorerait dans le sens du bien, mais le mouton également perdrait sa docilité et deviendrait quelqu'un d'un peu plus... un être un peu plus combatif.
Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
C'est un effort constant de sa part que de mobiliser le trésor des contes, en quelque sorte, l'univers des légendes, tous les matériaux de la mythologie. Elle cherche à créer une épopée des temps nouveaux et une légende moderne, comme elle le dit. Elle-même se présente comme un barde, c'est-à-dire comme un poète gaulois, enfin celtique, et ça rejoint tout son imaginaire de la Gaule, bien entendu, de la Gaule révoltée contre l'oppresseur romain. Donc ça rejoint également la fibre révolutionnaire. Le barde est, je pense, la figure qui permet chez elle de faire la jonction de l'engagement poétique et de l'engagement révolutionnaire. Le barde, c'est celui qui chante dans la bataille. Et c'est l'œuvre qu'elle s'assigne à elle-même. Chanter dans la bataille, accompagner la bataille, non seulement avec un fusil, mais avec la parole et la plume.
Ça, c'est une série de portraits intimes qu'Adolphe Buisson avait publié chez Armand Collin en 1896. Et ça s'appelle La citoyenne Louise Michel.
Xavier Gauthier.
Il dit « Elle s'anime, devient facétieuse. Elle me parle de ses romans, de ses pièces de théâtre. Elle a 9 manuscrits tout prêts à être imprimés et qu'elle a laissés sur sa table à Londres et qu'elle n'a pas osé apporter en France, craignant que la police ne les lui dérobât. Elle me confie qu'elle compose des vers. Ce n'est pas, ajoute-t-elle, que j'ai besoin de me délasser l'esprit. Mes conférences, mes efforts de propagande ne m'occasionnent aucune fatigue. C'est ma raison d'exister. C'est la passion qui me fait vivre. Mais la littérature doit être au service de l'humanité. Voyez-vous, au fond, j'ai toujours été une artiste. Je suis une artiste en révolution. » Et je crois que là, cette expression « artiste en révolution », est-ce qu'elle l'a vraiment dite ? Probablement. Ça la résume très très bien dans l'ensemble de sa personnalité et de sa vie. Elle a été une artiste en révolution. D'ailleurs, elle dit que d'une certaine façon, tirer au fusil ou écrire, il y a une ressemblance. Hein. Prendre la plume ou prendre le fusil,
ça jaillit.
Ça jaillit et pour elle, ça a le même effet. C'est-à-dire faire la révolution, on peut le faire avec un fusil ou avec une plume. Événement à volonté.
C'est comme quand on dit feu à volonté, événement à volonté. Et c'est ça son écrit, c'est des événements à volonté, c'est-à-dire que ça fuse sans arrêt. Hein. Mais elle a une façon vraiment bien à elle de lâcher l'imaginaire, qui est un imaginaire presque halluciné parfois. Donc ça, je crois vraiment que ça n'appartient qu'à elle. Et il y a dans l'écriture, quand on la laisse libre, dans l'écriture de Louise Michel, une charge émotionnelle, une charge sensuelle, presque érotique, qui a fait peur. Son cœur et son corps, elle les a jetés d'une certaine façon dans cette lutte. C'est pour ça que je dis que son corps et sa libido, elles ne sont pas complètement refoulées. Ils vivent à l'intérieur de cette lutte. Elle dit elle-même que quelquefois, quand elle adorait prendre la parole en public, elle était une oratrice hors pair. Elle pouvait parler devant plusieurs centaines de personnes, paraît-il avec une voix très douce, et on l'entendait, et les gens étaient fascinés. Et elle dit elle-même que quelquefois, quand elle apparaissait sur des marches, par exemple, pour prendre la parole, et qu'elle voyait la foule, elle ressentait à la fois un froid dans son corps, une chaleur dans ses yeux, voilà. C'est-à-dire des sensations vraiment corporelles, physiques. C'est-à-dire son corps entier a participé à cette lutte. Donc c'est vraiment un corps perdu, mais il est là, il est perdu dans la lutte. Voilà.
Mais du coup, faut-il la considérer comme une femme de plume ?
Alors, quantitativement, on est bien obligé, déjà. Hein, bon, non seulement, donc, alors il y a les milliers de pages qu'elle a écrites, il y a les 20 livres qu'elle a publiés de son vivant, avec succès. Avec succès, elle était un écrivain à succès. La misère, son premier roman qu'elle a publié, c'est comme le roman feuilleton, sauf que c'est pas dans un journal, c'est par livraison, mais c'est le même principe. Donc ça se passait par abonnement, elle avait 40 000 abonnés. Donc voilà, et elle était très connue, les gens étaient très curieux de connaître ses écrits, bien sûr. Hein. Donc elle a été un écrivain et reconnue comme telle. Et moi je crois qu'il faut non seulement continuer, mais la découvrir encore plus, parce que, encore une fois, on a encore à découvrir des écrits de Louise Michel qui sont à dormir dans les centres d'archives, ou tellement mal, alors à un certain moment ça a pu être très mal publié parce qu'il n'y avait pas vraiment de recherche et que on prenait ce qui venait sans réfléchir. Donc voilà, il y a à publier et à republier sans arrêt. Et selon moi, ça vaut la peine. C'est-à-dire, ce sont des écrits. Alors peut-être, on va pas la classer dans la grande littérature si on veut faire des catégories. Il faut la classer dans la littérature populaire, ce qui n'est pas non plus méprisable. Et on a une forme d'écriture quand même très particulière à elle, un style michélien qui a sa grâce, qui peut déplaire et qui peut plaire, mais qui a sa grâce propre.
C'était Louise Michel, Louve et Agneau. Un documentaire d'Aude Émilie Judaïque, réalisé par Doria Zénine. Avec Claudine Bourcelot, fondatrice et présidente de l'association Louise Michel, Xavière Gauthier, fondatrice de la collection des œuvres de Louise Michel, Claude Retta, directrice de recherche au CNRS, à qui l'on doit la récente réédition de 3 ouvrages inédits de Louise Michel, La Commune, À travers la mort et La chasse au loup. Vous avez pu aussi entendre Sylvain Vagnon, historien spécialiste de l'éducation nouvelle et libertaire, et enfin Jean-Louis Robert, historien, président de l'association Les Amis de la Commune. Les lectures étaient extraites de La Louve Noire, pièce de théâtre signée Giancarlo Ciarapica, et du poème Viro-Major de Victor Hugo, lu par Mohamed Rouabi. Un grand merci à Julie Carly pour sa généreuse interprétation de Louise Michel. Merci également à Gérald Dittmar, Giancarlo Ciarapica, Marie Ruggeri, Christian Bellhomme, Antoine Savoie et Anne-Lise Signoret. Cette émission est dédiée à Bernadette Michel, qui nous écoute sûrement depuis son paradis. Les diverses références bibliographiques, musicales et sonores sont bien sûr à retrouver sur le site internet de France Culture, à la page d'Une vie, une œuvre. Prise de son, Benjamin Thuot, Fabien Gosset, Yves Lehors et Romain Lucquins. Mixage Julie Garraud, attachée de production Claire Poinsignon, coordination Irène Omelianenko.
Je cherchais, ému par des rêves étranges. Ainsi l'aiguille cherche le nord, affolée dans les cyclones. Le nord, C'était la Révolution.
Le vent qui court à travers la montagne me rendra fou.
C'était Une vie, une œuvre, disponible en réécoute et podcast sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous contacter via Twitter ou Facebook. Rendez-vous samedi prochain à 16h pour Une vie, une œuvre consacrée à Malcolm X lors du week-end de New York organisé par France Culture en partenariat avec le Théâtre de la Ville.